Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoui est en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar, c'est au Sénégal. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Afrique.
On connaît les demi-finalistes de la Ligue des Champions. Le Raja Casablanca a perdu à Lubumbashi 1-0 face au tout-puissant Mazembe, mais s'est tout de même qualifié pour les demi-finales après sa victoire 2-0 au match aller. Le gardien Rajaoui a arrêté un pénalty qui a mis son équipe à l'abri d'une éventuelle prolongation, d'où les éloges d'un Congolais du Raja à son gardien. Le but, bien sûr, on écoute Ben Malango.
Vraiment très difficile pour nous. On était bien concentrés. C'est ça, on a arraché la qualification. C'est pas le plus important pour nous, n'est pas encaissé. Et bien dit, Dieu merci pour avoir un acte vraiment aujourd'hui. Grâce à lui, on a un demi-finale vraiment. C'est que j'ai fait dire vraiment merci à Anas, vraiment. Beaucoup de fleurs pour lui, beaucoup de fleurs pour lui, vraiment. Je suis content et merci à tous les comités, à tous les supporters qui nous ont soutenus, vraiment. Je suis content, Inch'Allah. À la prochaine, on va se voir en demi-finale.
Ben Malango, attaquant du Raja Casablanca, des propos recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, le Raja a souffert dans le jeu et en dehors, mais finalement s'est qualifié.
Oui, tout à fait. Le Raja fait preuve d'un exercice de maîtrise et d'une force mentale qui lui a permis de supporter les difficultés d'avant-match et surtout de résister aux multiples assauts de l'équipe du TP Mazembe. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, puisque le TP Mazembe a eu la possession du ballon à quasiment 70% du temps. Le Raja s'est contenté souvent de défendre et de défendre avec un bloc médian, voire bas. Et pourtant, ce n'est qu'à la 50e minute que l'équipe congolaise a pu ouvrir la marque. Il y a eu un gros temps fort du TP Mazembe, ponctué d'un pénalty, puis mettre en exergue le rôle du gardien de but du Raja de Casablanca, Nazniti, qui a repoussé tous les assauts, qui a arrêté ce pénalty. Ce pénalty a été le point culminant de la rencontre, c'est-à-dire qu'il a permis au Raja de reprendre du poil de la bête, de reprendre la confiance, de garder un peu plus le ballon, de se procurer des occasions, parce que le TP Mazembe a laissé des espaces derrière. Et la fin de match a été beaucoup plus tranquille pour l'équipe casablancaise, qui se qualifie à ce stade de la compétition pour la première fois depuis l'année 2005. C'est une équipe qui a fait preuve d'un gros mental, d'une grosse solidarité. Tactiquement, ils ont su, surtout au match aller, trouver des solutions pour étouffer le TP Mazembe et prendre l'avantage au match aller. Maintenant, l'appétit, c'est un adage, va venir en mangeant. Et aujourd'hui, c'est l'obstacle du Zamalek du Caire qui se dresse devant le club marocain.
En face, les Congolais du tout-puissant Mazembe sont déçus de leur élimination, à l'image de leur désormais ancien coach, Pamphile Miayo.
Moi, je crois que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à faire mieux que ça. C'est vrai, on a marqué les buts et après on a raté un penalty. C'est pas seulement le penalty qu'on a raté. Regardez les occasions que nous nous sommes créées, donc on n'a pas pu concrétiser. Et c'est vrai, c'est dur. C'est dur. Ça fait mal au cœur.
Pamphile Miayo, coach du tout-puissant Mazembe, qui a été viré après la rencontre et remplacé par le franco-serbe Drazen Cvetkovic. J'espère que je prononce bien. Alors, Valdo, pénalty manqué, Amine le disait tout à l'heure, brouille entre supporters louchois et joueurs marocains. À la limite, ce fut une soirée assez difficile pour le tout-puissant Mazembe.
Difficile, quand on sait qu'on joue pour les titres suprêmes chaque saison et que là, il faut s'arrêter dès les quarts de finale et qu'on avait la possibilité de jouer le match retour à domicile. C'est ce qui a toujours été le type du club, en espérant bien sûr faire mieux à domicile. Mais là, quand on passe à côté, que surtout on a l'opportunité, ne serait-ce que d'avoir les prolongations qu'on rate, un penalty dans Mazembe, l'histoire des penaltys, c'est encore une fois de plus. Mais le comble, est-ce que l'attaquant qui a tiré Moulekan n'était plus en grâce, hein. Il n'a pas été en vue, même au match aller, il n'a presque pas joué, il était sur le terrain. terrain pendant les 90 minutes, mais il était l'ombre de lui-même. Et au match retour, il a pratiquement refait la même chose, malgré la présence tant réclamée par les supporters, mais également du staff, hein, du tout puissant, du Trésor Poutou, qui a pratiquement tout fait, et qui a délivré notamment la passe décisive de la première, qui a été également la passe qui a occasionné les pénalties qui pouvaient donner l'occasion au tout puissant Gaber Mazembe, qui marquait de refaire pratiquement son retard, mais donc ça n'a pas été, les conséquences sont là également. Donc le plus dur pour les Corbeaux, c'était que les matchs allaient, et Raja l'avait bien joué, surtout avec ce deuxième but qui pèse dans la balance pour sa qualification, et à Lubumbashi, tout a été presque fait, mais malheureusement, le résultat final qualifie Raja, Mazembe doit tout refaire, d'ailleurs on est en train de tout refondre et revoir tout, le club a été en réunion également pour chercher à trouver, et bien sûr la formule pour se relancer lors de la nouvelle saison, notamment avec ce départ de Niaïeux et le nouvel entraîneur qui arrive, ce qui veut dire qu'il y a table rase qui sera faite, et la nouvelle saison va annoncer bien sûr de nouveaux objectifs. Le club va certainement se focaliser au niveau du championnat national et renouer le championnat national où il trône en tête, hein, et renouer notamment avec la Ligue des champions de la CAF.
Alors, Valdo, je reste avec vous. Dites-nous, hein, qui est Drazen, hein, le nouveau coach du tout-puissant Mazembe?
Bon, Drazen, il est arrivé là un peu plus tôt, parce qu'avant même qu'il ne prenne les commandes du tout-puissant Gaber Mazembe, il était déjà là comme adjoint, mais ça s'est déjà discuté en coulisses parce que Pamphile était déjà sur une chaise éjectable. Pour certains, Pamphile Niaïeux a toujours été un choix par défaut du tout-puissant Gaber Mazembe. Rappelez-vous, quand Moïse Katumbi est allé en exil avec des dossiers politiques, il fallait revoir à la baisse les budgets du club, il fallait se rabattre sur les moins coûteux, et là maintenant, on s'est rabattu sur Pamphile Niaïeux, et quand Drazen est arrivé, tout le monde a déjà su que Niaïeux partirait et que Drazen arriverait. Bon, Drazen, c'est aussi un entraîneur qui a une carte de visite, qui a fait également ses preuves au niveau de l'Europe et notamment au niveau de l'Afrique, qui va certainement prendre les rênes de Mazembe pour pouvoir l'amener vers le titre suprême. Mazembe ne vise que la Ligue des Champions, c'est là où il va retrouver toute son aura, toutes ses habitudes, parce que le titre suprême, c'est notamment aller jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Pour rappelez-vous, en 2010, les Corbeaux avaient fait une très très grosse prestation en atteignant la finale de cette compétition, et Moïse Katumbi à la tête de Mazembe, c'est notamment la Ligue des Champions ou rien, ce n'est pas la Coupe de la Confédération. Voilà pourquoi on a fait appel à lui pour pouvoir tenter, bien sûr, d'atteindre cet autre objectif au niveau africain.
Merci Valdo. De son côté, le Zamalek a aussi perdu chez l'Espérance de Tunis 1-0. Un match, un retour des quarts de finale, mais s'est qualifié grâce à sa victoire 3-1 à l'aller. Alors Jules, il n'y aura pas de troisième finale d'affilée pour l'Espérance de Tunis, qui a peut-être perdu ses quarts de finale dès le match aller au Caire en Égypte.
Oui, bien sûr. Il était évident que le Zamalek, qui a fait une bonne opération au match aller, et défendre bec et ongle son avantage au retour, surtout que le casting des quarts de finale nous a présenté réellement des équipes très proches l'une des autres, dont des grands champions, et tout allait se jouer sur les détails, et le match aller surtout devait compter, et l'équipe qui prenait un avantage courait en tête et l'autre se devait de la rattraper. Donc, à ce jeu-là, le Zamalek est suffisamment armé pour se sortir des pièges et l'Espérance n'a pas pu revenir au score. Je crois que c'était 50-50 au départ, mais après le match aller, c'était du 70-30.
Alali a contraint au nul le Mamelodi Sundowns 1-1 et passe également après l'avoir emporté 2-0 à l'aller. Alors Amdine, les Sud-Africains n'ont pas pu renverser la vapeur comme ils l'avaient fait l'année dernière et en ce stade de la compétition en gagnant Alali 5-0 à Pretoria. Ça c'était un match aller.
Le miracle n'a pas eu lieu pour les Sud-Africains, hein, qui ont quand même tenté, mais je l'avais dit lors de notre émission précédente, 2-0, c'est un score très difficile à remonter, et surtout face à une équipe égyptienne comme la Ahly, qui est composée de joueurs expérimentés. Ils ont bien négocié cette deuxième phase, puisque non seulement tenu en échec les Sud-Africains, mais ils ont réussi à marquer. Et vous le savez très bien, quand on marque un but à l'extérieur, la mission devient quasi impossible pour votre adversaire, ce que les Égyptiens ont fait à merveille. Et c'est pour cela qu'ils se sont qualifiés sans problème pour ces deux finales. Je pense que la logique a été respectée, Yacouba.
Le Wydad se qualifie aussi, malgré sa défaite 1-0 chez l'Étoile du Sahel. Au match aller, le club de Casablanca a gagné 2-0. Là aussi, ce fut difficile, hein, comme le dit l'entraîneur du Wydad Casablanca, Juan Carlos Garrido.
C'est vrai que spécialement dans la deuxième mi-temps, nous avons fait 2-3 chances pour faire le but très clair. Mais c'est aussi très clair que toi a fait beaucoup d'options. Le notre gardien, il a fait un grand match. Je pense que aussi c'est très important pour nous. Le notre gardien fait un match magnifique. Finalement, nous avons aconseguit la qualification dans un match très difficile. Nous devons montrer la capacité dans le terrain. Nous devons montrer l'expérience de l'équipe, l'expérience de toute l'équipe pour jouer un match comme ça, très difficile, contre un grand adversaire.
Juan Carlos Garrido, coach du Wydad Casablanca. Alors Amine, adversaire difficile, comme le disait le coach tout à l'heure, mais ça passe tout de même pour le Wydad Casablanca.
Et là, il faudrait quand même relever une statistique. Sur les 5 dernières saisons, le Wydad a été au moins en demi-finale lors de 4 éditions sur 5. Ça fait 80% de réussite et sans dire long sur le vécu de cette équipe. Aujourd'hui, les cadors du Wydad de Casablanca savent gérer les temps faibles, savent résister aux assauts des adversaires. Et puis, il y a ce facteur expérience qui permet de s'en tirer à bon compte. Et c'était le cas notamment à Rades face à l'Étoile Sportive du Sahel, puisque si la première mi-temps était plus ou moins bien maîtrisée par l'équipe marocaine, la deuxième mi-temps, avec l'ouverture du score signé par l'international algérien Dalibi pour l'Étoile du Sahel, a compliqué la donne et le Wydad de Casablanca est passé par des moments compliqués avec de multiples interventions du gardien Reda Tagnaouti qui est international marocain. Et puis le Wydad en contre a eu 2-3 opportunités, notamment une frappe d'Ismaël Haddad sur la barre transversale qui aurait pu rassurer les centaines de supporters qui ont fait déplacement depuis le Maroc. Quoi qu'il en soit, l'équipe du Wydad de Casablanca arrive à son objectif. Elle a recruté Juan Carlos Garrido pour pouvoir se relancer. Il était revanchard dans la mesure où il avait été débarqué en cours de saison par l'Étoile Sportive du Sahel. C'est un coup de signe du destin. Et les voici donc relancés en demi-finale face à l'Ali du Caire. L'aller aura lieu à Casablanca. Le retour aura lieu en Égypte. Et comme vous pouvez le constater, il y a deux clubs casablancais, deux clubs caroques qui sont en demi-finale. C'est en dit long sur la compétitivité des championnats égyptiens et marocains à l'heure actuelle en Afrique.
Justement, Amine, les équipes qualifiées pour les demi-finales sont donc le Zamalek et Al Ahly du Caire d'un côté, le Raja Athletic Club et le Wydad de Casablanca de l'autre. Alors, Jules, les équipes qualifiées pour le dernier carré le sont grâce à leur score à l'aller. L'avantage ne s'est pas fait au match retour comme cela l'est dans la plupart des cas.
Oui, bien sûr, on le pensait au départ, ça avait été cela, mais depuis quelques temps, le football moderne nous présente une autre configuration, dans la mesure où l'équipe qui défend, en fait, disons, a l'avantage de pouvoir contrer. Et ainsi, généralement, et si vous allez sur le terrain de l'adversaire et que vous pensez venir chercher un résultat, il vous contre facilement puisqu'il est en position d'adversaire, il a été deuxième dans son groupe et donc ça pose un peu les cartes. Et je crois que à ce niveau-là, tout se joue au match aller, le moindre détail compte et si vous prenez un avantage, surtout si vous n'encaissez pas de but, et toutes vos chances sont intactes pour le match retour.
Les demi-finales opposeront, comme Amine le disait tout à l'heure, le Zamalek au Raja Casablanca et Al Ahly au Wydad. Alors, Amdine, c'est possible d'avoir une finale 100% marocaine ou égyptienne, ou un affrontement entre les deux pays sur le terrain du foot, bien sûr.
Ah, tout à fait, vous avez raison. On peut avoir une finale 100% marocaine ou 100% égyptienne. Cela prouve que ces deux nations sont en train quand même d'abattre un travail extraordinaire puisque depuis quelques années, on voit les clubs de ces deux pays émerger. C'est vrai qu'il y a la Tunisie, les équipes de la Tunisie qui contestent un peu la suprématie de ces pays, mais je pense que c'est un bon travail qui est en train d'être effectué au niveau de ces pays qui ont quand même des structures dignes de son nom. Ces deux pays comme la Tunisie n'ont rien à envier aux clubs européens. Donc, pour vous dire que seul le travail paye, il faut quand même miser sur les infrastructures, miser sur les moyens pour avoir des équipes compétitives. Et les dirigeants des clubs marocains et égyptiens l'ont bien compris. Donc, ils vont se battre pour pouvoir quand même placer, pourquoi pas, deux équipes en finale. Mais moi, je pense que ce sera un peu difficile puisque le Wydad Athletic Club, c'est vrai qu'ils ont à travers la gorge la finale qu'ils ont eu à perdre, mais attention, en tout cas, c'est des matchs à... Bon, je dirais que c'est 50-50 pour ces deux demi-finales, car c'est quatre très bonnes équipes qui se rencontrent pour ce dernier carré. D'As Yakuba.
Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Le tableau des demi-finales de la Coupe CAF est aussi complet. Un seul but a suffi au bonheur des Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Vainqueur 1-0 devant Al Masry d'Égypte au cumul des deux rencontres. Eh bien, Berkane l'emporte 3-2. Les deux formations s'étant séparées 2-2 à l'aller. On écoute Alain Traoré, l'un des Burkinabés de la Renaissance sportive de Berkane.
On est très très content. On savait que ça allait être très compliqué sans notre public. Voilà, il fallait trouver les ressources mentales pour pouvoir venir à bout de cette équipe qui est combative, agressive, qui joue des longs ballons avec des attaquants costauds. Voilà, on a su bien les contenir et voilà, la victoire est logique et méritée. On connaît Hassania, c'est une très bonne équipe, surtout en campagne africaine. On va déjà jouer les deux matchs qui nous restent en championnat, se reposer et entamer cette demi-finale passer là. Notre objectif, c'est d'aller au bout de cette compétition.
Alain Traoré, joueur de la Renaissance sportive de Berkane. Alors, Amine, Berkane s'est qualifié sans son public, coronavirus obligeant, bien sûr.
Oui, la législation marocaine, ou plutôt la décision du ministère des Sports et de la Fédération marocaine de football, a poussé vers cette décision par mesure de prévention. Et donc, c'était bizarre de disputer une rencontre couperée sans public. Et pourtant, ce qui faisait l'atout de l'équipe de Berkane, c'est son expérience et son métier aujourd'hui. Ce sont des joueurs rodés aux joutes africaines. Ils étaient finalistes l'année dernière. Ils sont arrivés en quart de finale il y a deux saisons. Et face à une équipe de Matry sans grosse individualité, le talent et l'expérience, et surtout le facteur coup de pied arrêté, qui est un des éléments qui font la force de la Renaissance sportive de Berkane, on suffit un but à la 40e minute, après justement un corner beauté par Alain Traoré, but de l'Albinagi, le capitaine de cette équipe, a permis à Berkane de renouer avec le succès, parce que ça fait quand même 7 matchs qu'ils n'avaient plus remporté la moindre victoire, et surtout de se rassurer dans l'optique d'une demi-finale où ils affronteront un autre club marocain, le Hassania d'Agadir, ce qui va permettre au Maroc d'avoir un finaliste, d'autant plus que la seule ville candidate pour abriter la finale de la Coupe de la CAF, l'excite le communiqué de la CAF, serait Rabat. Et du coup, ça placerait le club marocain qui arriverait à se qualifier pour la finale en pole position pour l'emporter.
Ça passe par contre, ça passe aussi par contre, disons, pour l'autre club égyptien du Pyramide FC, vainqueur des Zambiens de Zanaco 3-0 lors du match aller des quarts. Le club égyptien a été surpris donc à domicile 1-0. Alors Jules, ça s'annonçait quand même difficile pour les Zambiens, pour que les Zambiens, disons, puissent remonter ces 3 buts encaissés à l'aller.
Oui, l'affaire était claire. C'était presque une formalité et pour les Zanaco, il fallait surtout, en quelque sorte, jouer pour un baroud d'honneur. Et ils l'ont fait, ils ont résisté. Mais Pyramide FC avait un avantage conséquent. Et en plus, c'est une équipe de l'Afrique du Nord, une région où le football est mature sur plusieurs plans. On a des équipes tactiques collectivement bien organisées et qui savent ce qu'elles cherchent sur le terrain. Je crois qu'avec une telle avance, il aurait été utopique de croire que Zanaco allait rattraper son retard.
Pour sa part, Hassania Agadir n'a pas eu pitié face à Al Nasr Ben Ghazi, battu 2-0. Après l'avoir écrasé, disons, à l'aller 5-0, Amine, je vous retrouve. Une chose est suivie, vous le disiez tout à l'heure, le Maroc aura un représentant en finale, puisque Hassania retrouve donc Berkane pour les demi-finales.
Justement, deux clubs qui ont déjà joué les premiers rôles en Coupe de la CAF la saison dernière. Pour le Hassania d'Agadir, c'est une première historique dans le dernier carré d'une compétition africaine. Le match aller avait scellé un peu le sort de l'équipe libyenne de Nasser Ben Razi, puisque la victoire était en faveur des Gadiris sur le score de 5-0. Donc, il fallait justement lutter contre ces vieux démons, celui de jouer dans une zone de confort, de se relâcher. L'équipe du Hassania d'Agadir a même un peu plus d'intensité en deuxième mi-temps qu'en première, pour pouvoir l'emporter grâce à Berkawi, justement,
qui est le meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Après son triplé du match aller, il a encore inscrit un but sur penalty. Le Hassané d'Agadir va devoir maintenant se consacrer à la compétition domestique, puisqu'en championnat, l'équipe connaît un parcours en dents de scie, avant de se relancer à partir du 3 mai prochain lors d'un duel fratricide face à la Renaissance de Berkane. L'aller est à Berkane, le retour est à Agadir. Est-ce que ce n'est pas un signe du destin pour ce club qui a été fondé en 1946 et qui n'a jamais connu de consécration à l'international?
Un club ouest-africain a résisté donc à l'hégémonie nord-africaine en se qualifiant pour les demi. Il s'agit bien du Oroya de Conakry qui a battu 2-0 les Nigériens d'Enyimba. Après le match nul, un but partout à l'aller. Alors Amdine, le Oroya fera face aux Égyptiens du Pyramide FC et se présente en quelque sorte en trouble fête dans ses demi-finales dominées en Ligue des Champions, en tout cas comme en Coupe Cap par les clubs du Nord.
Vous avez raison de le dire, les clubs du Nord qui dominent quand même ces deux compétitions, mais Oréa a su répondre présent, puisque Oréa s'est qualifié de fort belle manière, puisqu'ils avaient réussi à contraindre Enyimba lors du match aller sur le score de 2 buts partout. Au match retour également, ils se sont imposés sur le score de 2-0. Comme vous le savez, Oréa c'est une équipe souveraine à domicile et conquérante à l'extérieur, et ils l'ont prouvé dimanche en s'imposant grâce au Nigérien Simon Boladji qui a ouvert le score à la 27e minute. Oréa a su aussi gérer la seconde période pour marquer le but du KO lors des 5 derniers buts sur un corner de Morlaï Sila, et Boubacar Saman Sekou a pu quand même marquer ce deuxième but. Il faut dire que Yacouba, que c'est historique puisque l'équipe guinéenne n'a pas encore concédé de défaite durant cette compétition, et Oréa qui est qualifié en demi-finale fera tout pour représenter dignement, comme vous l'avez dit, non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique noire en général, puisque ces deux compétitions sont dominées de la tête et des épaules par les équipes maghrébines. Mais on va voir en demi-finale, surtout que Oréa aura en face l'équipe de Pyramide et d'Égypte, qui est une équipe redoutable. Moi, je considère cette équipe comme la révélation de cette compétition. Yacouba.
En Europe, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions reprennent dans l'ombre du coronavirus. L'Atalanta Bergame doit valider demain à huis clos son ticket pour les quarts de finale sur le terrain de Valence. Ce sera le premier match de cette Ligue des Champions-là qui aura lieu sans spectateurs depuis l'essor de l'épidémie en Europe. Mais du côté de Valence, les rêves de voir plus loin étaient de toute façon déjà minces après la déroute subie au match aller 4-1. L'autre rencontre de demain qui opposera les Allemands de Leipzig aux Anglais de Tottenham se jouera avec des spectateurs. Alors, Valdo, elle demeure indécise, cette rencontre Tottenham-Leipzig, ou encore Leipzig-Tottenham. Tottenham, qui a été finaliste en 2019, mais qui a été malmené chez lui à l'aller 1-0, mais qui reste tout de même en course pour la qualification en quart.
Oui, il reste tout de même en course. Quand on sait qu'il y a un but seulement qu'il faut remonter, je pense bien que le Special One, José Mourinho va chercher à tout faire pour chercher bien sûr à jouer la qualification. Mais du moins, ça s'annonce pas facile parce qu'il est déjà décevant pour avoir été finaliste la dernière saison et pour suivant cette saison, même en championnat, le club de Tottenham est mal en point, c'est une évolution à dents de scie. Donc ça s'annonce un défi jusqu'au bout. Il faut vraiment voir ce qu'il en sera de l'issue de cette opposition pour voir qui de deux va se qualifier. Mais je pense bien que Mourinho a un coup à jouer côté Tottenham.
Mercredi, le PSG et Dortmund s'affrontent aussi dans un silence total. Le match va se jouer à huis clos, décision donc de la préfecture de police. Alors, Jules, le PSG s'était incliné 2-1 à l'aller et tentera de remonter la pente sans son public. Pas simple,
Oui, mais seulement il a un avantage, c'est qu'il a marqué à l'aller. Et donc, il lui suffit d'être prudent, d'être patient pour profiter de la moindre faille. Et il a des joueurs pour cela, des contre-attaquants qui ont de la vitesse, comme le jeune Mbappé, et qui peuvent à tout moment et inverser le sort d'une rencontre. Et en même temps, le PSG a donné plus de garanties défensives, je crois, que Dortmund. Donc, le point fort est l'attaque. Mais comme il n'y aura pas de public, et les deux équipes joueront sur leurs valeurs propres sur le terrain. Et je crois que le scénario du match aura aussi son importance. Celui qui marquera le premier aura des chances de finir et disons de passer cet obstacle.
L'autre huitième de finale du mercredi mettra aux prises à Anfield Liverpool et l'Atlético Madrid. Alors Amine, les Espagnols l'ont emporté 1-0 à l'aller, mais le champion en titre devra sortir le grand jeu s'il veut rester dans la course à sa propre succession. Amine.
Je disais que le champion titre a un atout anglais exigeable, c'est Anfield qui est le 12e homme, et c'est ce public et ce cop qui va pousser l'équipe de Liverpool un peu en dedans depuis quelques semaines avec quelques contre-performances, une élimination en FA Cup, une défaite en championnat inattendue face à Watford. Il va falloir relancer la machine face à une équipe d'Atlético de Madrid en hausse depuis deux ou trois semaines. L'équipe d'Atlético commence à retrouver les valeurs qui ont fait de ce club un finaliste de Champions League en 2014 et 2016. Ce sera l'attaque de Liverpool face à la défense de l'Atlético de Madrid. Ce sera un match gros avec beaucoup d'intensité, mais on pourrait mettre peut-être une petite pièce sur l'équipe de Liverpool, sur l'esprit du champion et sur ce trio qu'on peut.
Merci Amine Birouk Sourama qui s'achève ici. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.